T'es avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et nous sommes de retour pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. Dans un instant, la libre antenne, vos commentaires, vos réactions sur l'actualité de la semaine. Mais d'abord, nous retrouvons Joachim, qui est toujours en ligne de Niamey et qui nous posait un certain nombre de questions juste avant le journal. Des questions sur la condamnation d'Ama Amadou, puisque le principal opposant nigérien a écopé d'un an de prison ferme pour son implication dans un trafic international de bébés. Vous êtes toujours en ligne, Joachim ?
Oui, je suis toujours à Mewan.
Parfait. Et vous aviez une dernière question à nous poser. Marie-Pierre Olfand du Service Afrique est toujours à mes côtés. Elle a attendu, évidemment, pour pouvoir vous éclairer concernant votre dernière question.
D'accord. Ma dernière question est de savoir la conséquence politique que Ama Amadou pourrait tirer à la suite de cette condamnation.
Alors, rappelons qu'il a été jugé par contumace. Hein. Physiquement, il n'était pas présent et il ne vit pas d'ailleurs au Niger, Ama Amadou. Marie-Pierre Olfand, ça fait maintenant 2 ans hein, que cette affaire empoisonne le climat politique au Niger. Quelles peuvent être les conséquences de cette condamnation, les conséquences politiques ?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ça risque tout simplement de ne pas encourager Ama Amadou à rentrer au Niger. Mais dans l'immédiat, ça ne va pas non plus changer grand-chose pour lui. Hein. Il reste le chef de file de l'opposition, mais il vit en France. Vous l'avez dit, depuis son évacuation sanitaire parce qu'il était malade l'année dernière lors de la campagne présidentielle. Donc depuis mars dernier, depuis un an maintenant, il est absent de la scène politique nigérienne. Son parti a appris à tourner sans lui. L'homme garde encore bien sûr ses militants au Niger, d'autant qu'aux yeux de ses soutiens, il jouit d'un statut de victime du pouvoir en place. Mais difficile de dire aujourd'hui quelles conséquences aura son absence si elle se prolonge, si ce n'est qu'à rester trop longtemps loin de ses militants. Il court le risque de se couper d'eux, peut-être, et d'être vu aux yeux de certains comme quelqu'un qui ne veut pas affronter la justice. Ama Amadou, en tout cas, lui, ne s'est pas exprimé depuis plusieurs mois, depuis qu'il est en France, à ma connaissance, depuis un an. Il fait volontairement profil bas, et je ne peux donc vraiment pas vous dire quelles sont ses intentions aujourd'hui et quel avenir politique il envisage au Niger.
Joachim ?
Oui.
On a répondu à vos questions ?
Oui, très bien même.
On vous souhaite une bonne journée et merci de votre fidélité. Bonne journée à Niamey, au Niger. À bientôt, Marie-Pierre Olfand.
À bientôt, merci.
C'est la Libre Antenne et vous êtes très nombreux à commenter la victoire surprise d'Ama Amadou à la tête de la Confédération africaine de football. L'indétrônable Issa Hayatou a largement été battu hier par le président de la Fédération malgache de football. Le président Amadou a recueilli 34 voix contre 20 pour le président sortant. C'est donc une page qui se tourne pour le football africain. On peut parler de fin de règne pour Hayatou, qui sera resté tout de même 29 ans à la tête de la Confédération africaine de football. Bonjour Mamadou.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez d'Abidjan. Vous êtes à la fois très surpris par la défaite d'Hayatou et en même temps très content.
C'est ça. Je suis, comme vous l'avez dit, très surpris parce que avant votre émission d'hier, moi, je n'avais jamais entendu parler de Ama Amadou. Et donc, les premières informations que j'ai sur lui, c'est au cours de votre émission.
Oui.
Et donc, quand j'apprends que ce monsieur, qui est un parfait inconnu pour quasiment tout le monde, a gagné ses élections, force est de reconnaître que la surprise prend le dessus.
Oui. Et c'est vrai que, rappelez-vous, en janvier, lorsqu'il se présente et dit, voilà, je serai candidat à la présidence de la Confédération africaine de football, beaucoup pouffaient, beaucoup rigolaient et disaient, mais enfin, quelle drôle d'idée d'aller tenter de détrôner le président, le Baobab, le président Hayatou. Les mauvaises langues disaient même, oh bah cette candidature, c'est juste une manœuvre de la CAF pour donner l'impression que l'élection sera démocratique. Donc vraiment, personne n'y croyait. Et puis voilà, le résultat est tombé hier, 34 voix contre 20 pour le président sortant. Il était temps qu'Hayatou quitte la tête du football africain.
Oui. Pour moi, il était temps. D'ailleurs, j'estime que ce qu'il s'apprêtait à faire, c'était même pas le mandat de trop. Pour moi, le mandat de trop, il avait déjà fait. Voilà, parce que, souvenez-vous, en son temps, il avait dit qu'au sortir du mondial organisé en Afrique du Sud, qu'il partirait, parce qu'il avait obtenu cette organisation. Mais il n'a pas respecté sa parole. Alors, pour moi, c'était vraiment le mandat de trop. Il était temps qu'il parte pour qu'on découvre qu'en Afrique, il y a d'autres compétences, il y a d'autres cerveaux qui sont à même de gérer cette grande institution qu'est la CAF.
Alors restons en ligne, Mamadou. On va parler justement des attentes, et elles sont nombreuses et importantes concernant le nouveau président de la Confédération africaine de football. On accueille Roger qui est à Bafang dans l'ouest du Cameroun. Bonjour Roger.
Bonjour Yann.
Est-ce que vous partagez déjà l'engouement exprimé à l'instant par Mamadou? Est-ce que vous aussi vous faites partie de ceux qui se félicitent de l'échec cuisant hier d'Ayatou?
Moi je pense au contrario que la CAF, n'est-ce pas, vient de nous montrer que les élections démocratiques peuvent bien s'y dérouler et que par la démocratie, Issa Ayatou a été mis au plancher. Hein, comme le président américain Donald Trump, voilà Ahmad qui est aussi arrivé d'une manière, n'est-ce pas, imprévue. Et je pense que M. Ayatou n'a pas su quitter le public avant que le public ne le quitte. Il a déclaré au sortir du mondial sud-africain qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat. Et la maladresse qu'il a eu à faire, c'est d'aller soutenir, n'est-ce pas, le président actuel de la FIFA. L'arrivée sur le continent du président de la FIFA...
Il n'a pas soutenu justement l'actuel président de la FIFA. Oui, au contraire, au moment de l'élection...
Il a soutenu l'adversaire.
Ah, l'adversaire, oui, l'adversaire. Oui.
L'adversaire. Il a fait une campagne contre le président actuel. Et je voulais vous dire donc que l'arrivée sur le continent du président de la FIFA, qui a esquivé expressément son pays natal, c'est-à-dire le Cameroun, était un signe précurseur. Car à ce moment-là, moi, j'ai constaté que cet homme incarnait, n'est-ce pas, la mafia des réseaux, n'est-ce pas, footballistiques. Et il venait, n'est-ce pas, en Afrique déjà pour adouber les présidents des clubs pour pouvoir voter contre M. Ayatou. Ayatou n'aime pas lui-même, n'est-ce pas, surpris de sa défaite. Moi, je pense. Ouais. Et que moi, j'ai...
Enfin, vous pensez qu'il n'est pas surpris de sa défaite? Moi, je penserais le contraire. Mais enfin, je n'étais pas sur place hier au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Je n'ai pas vécu physiquement le vote. Mais ce qui se disait avant même le début de la cérémonie hier matin et la veille au soir, dans l'entourage du président Ayatou, on était globalement convaincu qu'Issa Ayatou remporterait une fois de plus le scrutin. Mamadou, vous êtes toujours en ligne d'Abidjan. Vous nous disiez avoir des attentes concernant le nouveau président Ahmad.
Oui, chef noir, parce que là, le candidat, il a fait de belles promesses et ses pairs présidents des fédérations l'ont soutenu. Ok, ça c'est fait, Issa Ayatou, il est parti. Maintenant, ce qu'on attend de Ahmad, c'est de pouvoir faire vraiment des réformes profondes au niveau de l'institution CAF. C'est-à-dire, pour moi, déjà, il faudrait qu'il y ait une limitation du nombre de mandats et une limitation au niveau de l'âge des futurs présidents de cette institution. Et puis, deuxièmement, qu'il y ait un peu plus de visibilité au niveau de la gestion des gros sous qui circulent dans le football africain. Parce que... tout le monde vous le dira, vous savez, l'histoire de corruption, c'est très difficile à prouver, mais tout le monde vous dira que M. Ayatou a mis un système de corruption.
Alors là, vous qui le dites, là encore une fois, il y a eu beaucoup de rumeurs concernant Issa Ayatou, beaucoup l'accusaient de détourner de l'argent, etc. Pour l'instant, il n'a jamais été condamné. Et lui-même disait, je crois que c'était au micro d'Annie Gasnier il y a quelques mois, lorsqu'il est venu à RFI, eh bien, trouvez la moindre chose. Si vous avez des preuves, apportez-les, mettez-les sur la table, et à ce moment-là, il y aura procès. Mais pour l'instant, il n'y a pas de preuves. Le nouveau président, lui, a été très clair. Il va demander un audit financier. Il veut plus de transparence. Évidemment, dans la gestion de la Confédération africaine de football. Je remercie Mamadou. Bonne journée également à Roger. Welcome. Bonjour.
Bonjour. Oui.
Alors, satisfait ou pas par la défaite d'Issa Ayatou?
Satisfait, Juan. C'est tout de même une surprise. Une surprise agréable dans la mesure où l'on a quand même enfin réussi aujourd'hui à parvenir à l'alternance tant recherchée au sein même de cette institution qui n'est autre que la CAF. Mais Juan, je pense que les défis restent à relever. La CAF, tout de moins le football africain, souffre d'un sérieux problème. C'est celui de la dotation des différents États des structures sportives adéquates. Comment peut-vous concevoir qu'un pays comme le Cameroun, qui est aujourd'hui champion d'Afrique, qui regorge des grands talents, mais a un problème de stade? Et en dépit de cela, nous avons ce problème de la professionnalisation de nos différents championnats. Et je pense que Hamad, qui vient d'être élu, va donc relever ces défis. Et ça ne sera pas facile, oui, mais le plus important pour nous, c'est ça. Ouais. L'alternance,
mais
oui.
Ça ne sera pas facile, Hamad, oui. Ça ne sera pas facile, welcome, mais il envisage de le faire. Hein. J'ai lu son programme, il veut améliorer la formation des entraîneurs. Et là, c'est très bien, puisque c'est vrai qu'on le voit à chaque Coupe d'Afrique des Nations, la grande majorité des entraîneurs des sélections viennent d'Europe, il veut former des entraîneurs africains et il veut faire en sorte que le continent se dote de stades plus modernes. Et là aussi, ça fait partie de vos préoccupations, welcome. Restez en ligne, vous allez peut-être revenir dans un instant, j'aimerais qu'on accueille Alain Régis, qui est à Charleroi, en Belgique. Bonjour Alain Régis.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Soyez bienvenu, on vous écoute.
Merci beaucoup, voilà, je vous appelle parce que voilà, je voulais intervenir sur l'élection du nouveau président de la CAF, monsieur Hamad, voilà. Donc personnellement, je suis satisfait de, voilà, de cette élection parce que voilà, pour moi, je disais qu'il était temps que monsieur Ayatou puisse partir parce qu'en fait, on a, enfin, personnellement, je reconnais les mérites, hein, enfin, de ce monsieur, monsieur Ayatou, il a beaucoup fait pour le foot africain, mais il était temps pour lui de se retirer, voilà.
Et en même temps, il n'avait pas envie de se retirer puisqu'il briguait un huitième mandat.
Justement, voilà, c'est ça le problème, parce que voilà, à un moment, après avoir dirigé cette institution pendant 29 ans, à un moment, il y a l'usure du pouvoir. Donc il fallait quand même cette alternance, apporter un nouveau souffle, éventuellement, pour essayer de, voilà, de restructurer les choses, d'essayer de donner un peu plus de pouvoir dans les présidents, et puis voilà, faire que des choses puissent changer dans l'ensemble. C'est ça le problème.
Il y a Amado sur Facebook qui nous dit « Quel soulagement pour le football africain. Le vent de la démocratie souffle enfin sur le foot africain », nous dit Théo. Moussa nous dit « Chaque chose a une fin. Voilà la chute du dictateur du football africain. Félicitations à Hamad. Diallo, mais qui l'aurait cru? Un petit candidat est parvenu à déloger le tout-puissant Ayatou. L'histoire du football africain retiendra ce jour du 16 mars 2017. Ahmed, parmi les centaines de réactions, hein, j'en lis quelques-unes. Ahmed nous dit « Issa Ayatou aurait mieux fait de ne pas briguer un huitième mandat. Le voilà aujourd'hui humilié pour avoir ignoré que le vent du changement soufflait dans toutes les institutions du football mondial. » Alain Régis, bonne journée en Belgique. Je remercie également Welcome qui nous appelait de Pointe-Noire. Voilà, nous aussi on va tourner la page et on aura l'occasion évidemment de nous intéresser au premier pas d'Ahmad Ahmad à la tête de la Confédération africaine de football dans les prochaines semaines. Des réactions au standard concernant la Guinée, puisque Toumba Diakité a été mis en examen. Je vous rappelle que cet ancien militaire est poursuivi pour meurtre, viol, pillage, incendie volontaire, torture. Il est accusé en fait d'être l'un des principaux artisans de la mort d'au moins 157 opposants dans un stade de Conakry en 2009. Toumba Diakité a été extradé dimanche en Guinée. Il avait été arrêté en décembre dernier au Sénégal. Il est désormais entre les mains de la justice guinéenne. Bonjour Alpha Amadou.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Conakry et alors vous dénoncez cette extradition, vous dites tout cela c'est de la mascarade.
Oui, bien entendu, l'extradition en soi c'est une bonne chose parce que nous voulons que la justice soit faite, mais je pense que qu'il soit extradé aujourd'hui, il y a plusieurs raisons qui nous donnent l'inquiétude. D'abord, on a empêché à plusieurs reprises son mentor Moussa Dadis Camara de revenir en Guinée pour s'expliquer sur le même dossier, et ensuite l'assassinat sans forme de procès de son frère dans les prisons de Conakry sont des preuves palpables aujourd'hui que l'État sénégalais a jeté Toumba Diakité dans la gueule du loup. Aujourd'hui,
quand vous dites dans la gueule du loup, pour reprendre votre expression, en même temps, le ministre de la Justice en Guinée a été clair, il s'est plusieurs fois prononcé en faveur d'un procès, donc il y aura un procès.
Se mettre devant micros et caméras pour dire qu'il y aura procès, les annonces ne font pas un procès et je pense que le ministre doit arrêter de se foutre du peuple de Guinée. Aujourd'hui, Toumba est revenu en Guinée, clé de voûte du massacre. Il est en train de dire, sans l'aide extérieure, difficile de tenir un procès. Et alors qu'il y a des inculpés qui sont à Conakry, si le ministre est sérieux dans ses propos, qu'il commence par arrêter ces gens qui sont inculpés et qui continuent d'ajuster les vestes de M. Alpha Condé au palais présidentiel.
Oui. Ce que vous reprochez, en fait, c'est que, oui, la justice a inculpé une quinzaine de hauts responsables de la junte militaire qui était au pouvoir au moment des faits en 2009, mais que certaines de ces personnes inculpées ont toujours des responsabilités officielles. Et c'est là où vous dénoncez, vous, le deux poids, deux mesures.
Oui, bien entendu, oui. Aujourd'hui, que le ministre nous dit que la justice va se faire. Mais si le sérieux qui commence par arrêter ces gens-là, après nous allons comprendre. Mais sinon, Toumba aurait dû le retrouver, ces gens qui sont inculpés, c'est au grade qui ne sont pas des moindres, il aurait dû le retrouver en prison, en détention. Mais aujourd'hui, il y a totalement un paradoxe. Toumba aussitôt arrêté, aussitôt extradé en Guinée. Les inculpés sont là, ils se paradent dans toute la capitale et puis considèrent rien. C'est totalement inacceptable.
Alors c'est inacceptable, on l'entend. On aura l'occasion, évidemment, sur ce dossier, d'y revenir dans les prochaines semaines. Merci de nous avoir appelé, Alpha Madou. Vous étiez nombreux, d'ailleurs, à souhaiter commenter cette extradition et cette mise en examen. Donc, très prochainement, un débat, c'est promis. Bonjour, qui avons-nous ? Rosine. Bonjour, Rosine.
Bonjour Juan.
La campagne électorale en France, vous la suivez depuis la Côte d'Ivoire, avec en toile de fond la mise en examen de François Fillon. Je rappelle que le candidat de la droite et du centre est poursuivi notamment pour détournement de fonds publics dans le cadre de l'enquête sur les emplois fictifs présumés de son épouse et de ses enfants. Depuis hier, l'enquête a d'ailleurs été étendue aux fameux costumes de luxe qui lui ont été offerts par un généreux donateur. Vous dénoncez, ce matraquage anti-Fillon et vous dites « il a raison ». De maintenir sa candidature.
Je pense qu'il a tout à fait raison de maintenir sa candidature parce que je trouve que c'est une image triste de la démocratie en France à laquelle nous assistons aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y a vraiment deux poids deux mesures au niveau des candidats. Je pense que c'est vraiment un matraquage médiatique et la preuve c'est que lorsque monsieur Juppé a dit qu'il ne serait pas le plan B. Il a dit qu'il ne voulait pas exposer son épouse et sa famille aux démolisseurs de réputation. Donc je pense que ça arrive jusqu'à ce point-là, au point où les hommes politiques auraient aujourd'hui peur de faire de la politique,
oui.
De ne pas voir...
Mais en même temps, c'est quand même la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un candidat à l'élection présidentielle se présente avec une procédure judiciaire sur les épaules. Alors, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent, enfin c'est quand même une première.
C'est peut-être une première, mais qu'est-ce qu'on veut finalement ? Est-ce qu'on veut un candidat qui après est élu et pour lequel, je veux dire, un mois ou deux mois après, on fait sortir toutes les histoires et qui est complètement démoli dans la fonction présidentielle elle-même, ou quelqu'un qui est mis en examen aujourd'hui et pour lequel on prouvera plus tard qu'il est soit innocent, soit coupable, peu importe, mais au moins on aura tout dit sur lui avant l'élection. Et du coup, les Français vont voter en toute connaissance de cause.
Oui, en tout cas, les Français, si on en croit un sondage publié ce matin, ils sont tout de même 75% estimés que François Fillon aurait dû se retirer après sa mise en examen.
Non, moi, personnellement, je regarde tout ça de la Côte d'Ivoire et je pense qu'il a bien fait parce qu'il faut avoir un courage politique. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre le destin de la France au-dessus de son propre destin. Et je pense que s'il s'était retiré, il aurait dit qu'il est en train d'être sali et que ça aurait été son destin personnel. Je pense que c'est très courageux ce qu'il fait et qu'il faut qu'il arrive jusqu'au bout et on verra ce que les Français vont décider plus tard.
Bon, en tout cas, les sondages, et nous les prenons évidemment avec énormément de pincettes, un sondage lui donne 7,5 points de retard sur Emmanuel Macron. Donc François Fillon est troisième pour l'instant dans la course à l'élection présidentielle. Merci beaucoup, Rosine, de nous avoir appelé. On avait d'autres auditeurs sur d'autres sujets, notamment sur Khalifa Sall, le maire de Dakar, accusé d'avoir détourné 2,7 millions d'euros de fonds publics. Il doit s'exprimer dans les prochaines minutes devant le doyen des juges à Dakar. Là aussi, vous y reviendrez certainement la semaine prochaine avec Nicolas Brousse, puisque c'est lui que vous retrouverez à partir de lundi. Il sera à ce micro. D'ailleurs, Nicolas vous propose lundi de parler de francophonie à l'occasion de la journée internationale. Nous sommes près de 300 millions de personnes à parler le français à travers le monde. Mais la francophonie, vous le savez, c'est aussi le partage des valeurs politiques, valeurs économiques. Alors, que représente pour vous l'espace francophone ? Quel regard portez-vous sur l'action de la francophonie? Qu'attendez-vous finalement de cette organisation? Inscrivez-vous dès maintenant, le standard reste ouvert, 33 9 693 693 70.
Vous avez suivi Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, solution de transfert d'argent accessible depuis votre mobile au dièse 180.